Bonsoir et bienvenue dans ce quatrième épisode de la troisième saison de Culture Sans Or, l'émission hebdomadaire qui débriefe les matchs du Racing et l'actu du peuple sans et hors nos Lensois qui continuent leur excellent début de saison avec une nouvelle victoire pleine d'abnégation samedi face au Stade Rennais. Prétendant hein, aux places européennes, on va bien sûr débriefer cette performance dans la première partie de l'émission. En tout cas, on espère que cette dynamique lensoise ne sera pas sectionnée par la fin du mercato, hein, puisque la position de Seko Fofana reste encore un peu floue. Et puis Patrick Berg est annoncé de retour en Norvège. On fera un point également avant la mi-temps, un point mercato dans Culture Sans Or. À la pause, on jouera avec un quiz de Culture Sans Or, un petit peu nouvelle formule. Et puis en deuxième partie, on débattra de la gestion des fins de match des Sangiors. Est-ce un souci de concentration? C'est la question qu'on vous pose et à laquelle vous pourrez réagir dans les chats de l'émission. Et puis, on évoquera le FC Lorient, prochain adversaire du Racing, très vite, hein, dès mercredi. Des Lorientais dont on pourrait y voir quelques similitudes avec l'équipe de Franck Hez. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour m'accompagner, je vous présente le casting de ce quatrième épisode. Comme on aime le comparer à Pereira da Costa, il devrait régaler l'émission de sa touche technique, mais sortir à un quart d'heure de la fin. Antoine Combes est avec nous. Salut Antoine.
Bonsoir à toutes et à tous.
Il aurait pu être notre Patrick Berg, un joker deluxe. Les dernières infos ne vont pas dans ce sens pour le Norvégien. Mais lui, il reste bien CSO. C'est Thomas Fauvert qui est là. Salut Thomas.
Salut Val, salut à tous.
Comme Francaise, il s'intéresse d'abord au contenu avant le résultat. On verra si c'est la même chose pour le quiz. Guillaume sera notre troisième chroniqueur. Salut Guillaume.
Salut Valentin, bonsoir à tous les supporters en soi.
Enfin, il aurait déclaré après le match, je crois qu'après avoir vu ça, on peut aller manger une frite fricadette tranquille, mais pas trop tard quand même. Greg Lallemand, de La Voix du Nord et de La Voix des Sports, clôture les présentations. Salut Greg.
Ouais, salut à tous. Après, quel qu'aurait été le résultat, on va pas se mentir, la finalité de ma soirée aurait été la même.
Allez, réagissez dans les différents chats de l'émission sur Facebook et sur YouTube, hein, sur tous les sujets dont on va aborder au cours de cette émission. On va la démarrer tout de suite et on siffle la première mi-temps. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Culture Sans Or sur les réseaux, ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Et puis rendez-vous sur notre site web culturesansor.com pour y trouver plein d'articles sur le club. Après une première période plutôt étriquée, les Lensois ont réussi à déverrouiller la rencontre en 5 minutes samedi soir grâce au génie de Fofana et à la vista de Loïs Openda. Le Racing s'offre un nouveau succès face à Rennes et poursuit sa dynamique, réalisant son meilleur début de saison depuis la saison 2001-2002. Messieurs, premier tour de table, à votre avis, qu'a pu dire Franck Hez à ses joueurs à la mi-temps, selon vous? Je vais poser la question à Guillaume pour commencer.
Moi, je pense qu'il leur a dit on continue, ils vont craquer, on va faire la différence, on ne change rien, on continue et ayez confiance dans ce que vous faites et ça va passer.
Greg, tu crois qu'il a eu ce discours-là quand on voit la première mi-temps, Franck-Hez?
Bah, c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre les deux mi-temps, hein. C'est une évidence, enfin, en tout cas dans l'emballement offensif, parce que dès les premiers ballons en deuxième mi-temps, on a vu vraiment cette volonté d'aller de l'avant. Après, je ne sais pas si Franck-Hez leur a dit d'hausser le ton. Peut-être que c'était même déjà avant le match, l'idée c'était de rester bien en place et le plan de jeu était peut-être justement d'élever le niveau de jeu après une première mi-temps un peu plus tactique en tout cas.
Ouais. Je te pose la question Antoine, et globalement ton sentiment à toi aussi à la pause, si tu étais Franck Hez, qu'est-ce que tu pensais?
Moi je pense qu'il était déjà très satisfait de la solidité défensive. Première mi-temps c'était vraiment deux gros blocs de part et d'autre, mais je pense qu'il a dû insister notamment sur continuer à travailler sur l'axe défensif central de Rennes, où on voyait que même si c'était plus ou moins solide, Openda pouvait faire mal dans la profondeur. Et je pense qu'il a axé notamment sur ça, et de lâcher un peu plus les chevaux. Je trouve qu'on a joué avec pas mal de retenue, pas par crainte, mais plus par respect de l'adversaire. Voilà, on a pris la mesure de l'adversaire au fur et à mesure du match, et on continuer à monter en confiance et faire du lance en deuxième mi-temps, quoi.
Allez, je termine ce tour de table avec toi, Thomas.
À mon avis, il a dit donner le ballon à Seko, c'est son dernier match, il va partir en héros.
Super, ça commence bien.
Non, mais voilà, bah, comme mes trois confrères, voilà, continuer comme ça, rester solide derrière, mais prendre sa chance devant. Et en alternant toutes les phases d'attaque sur les côtés, les frappes de loin comme Seko en partant du côté gauche, et la profondeur avec Loïs. Et ça a payé en 5 minutes comme à Monaco, en fait, où on remarque aussi rapidement deux fois. Donc voilà, continue d'aller de l'avant.
Ouais. Bah, c'est ce qu'ils ont fait en tout cas en début de seconde période. Mais d'abord, on va revenir sur cette première période, un premier acte plutôt étriqué. J'ai trouvé un match assez psychologique finalement, très physique aussi. Antoine, tu disais que tu trouvais qu'ils avaient peut-être un petit peu trop respecté les Rennais. Est-ce que c'est ton avis, Guillaume ? Moi, j'ai trouvé quand même des Rennais assez au contact, assez au pressing.
Non, effectivement, on a respecté les Rennais. Après, je pense que eux, les Rennais, en l'occurrence, ils nous craignaient. Ils craignent notre bon début de saison. Nous, on respecte les Rennais parce qu'ils sortent d'une quatrième place. Et donc, au début de la saison, a priori, c'est Rennes qui est plutôt dans ce genre de confrontation, qui doit plutôt endosser le costume de favori. Je pense que c'est pour ça qu'on a quand même eu un peu d'observation, même si on a démarré bien le match. Les 5-10 par minute, puis après il y a eu quand même un gros round d'observation où les deux blocs se sont un peu neutralisés. On avait quand même le sentiment que chacun savait qu'une perte de balle malvenue pouvait entraîner quand même une occasion, voire un but. Donc il y avait quand même un peu de la prudence. Et après, quand on voit la compo rennaise, là en revanche, eux effectivement, pour moi, ils étaient plus dans la crainte parce qu'ils n'ont pas aligné beaucoup d'armes offensives et ils en avaient sur le banc. Et notamment, bon, Bourigeaud et Ailier, moi, ça, je comprends pas forcément. Enfin, c'est vraiment un choix que je trouve particulier, même si de temps en temps, il joue à ce poste-là. Donc, voilà, enfin, pour moi, c'était plutôt comme ça, ma lecture, en tout cas, du début du match et du round d'observation et de cette confrontation.
Ouais, quand on voit un Laborde pas titulaire, Greg, qu'est-ce qu'on se dit de Rennes ? Ils craignent les Lensois, c'est ce que tu as remarqué, toi, dans la première mi-temps ?
Bah moi, en fait, je voulais juste revenir sur le fait que c'est le cinquième match, mais depuis que Lens est remonté en Ligue 1, et les quatre premiers matchs étaient soldés par deux victoires lensoises et deux matchs nuls. Et surtout, sur l'ensemble de ces matchs, si on les reprend, il y a eu très très peu d'occasions rennaises, qui est quand même une équipe qui, en général, et Francaise l'a dit en conférence de presse, une équipe qui a mis 82 buts la saison dernière, et qui était venue à Bollard et qui avait eu zéro occasion, par exemple. Ouais. Et c'est vrai, sur les quatre premiers matchs que Lens a pu jouer face au Stade Rennais depuis la remontée en l'été 2020. Et je pense que Rennes est typiquement dans l'équipe qui ne trouve pas trop de solutions face à cette défense à 3, face à ces pistons. Et je pense qu'il y a pas une forme d'infériorité, en tout cas d'infériorité, de complexe, en tout cas psychologique. Mais on n'est pas loin de ça, et je pense que les Rennais, ils savent très bien, ils s'étaient fait plusieurs fois planter par le Racing Club de Lens jusque-là, que ça a pu jouer dans l'approche du match, parce que c'est quand même une équipe, effectivement, même Martin Terrier tout seul devant, si c'est alimenté, ça peut forcément être beaucoup, ça doit être plus dangereux que ça l'a été, en tout cas pendant les 75 même premières minutes. Autant la fin de match, on en reparlera tout à l'heure, a été vraiment très compliqué pour Lens. Je pense que vraiment ça a été très très dur, mais les Rennais jusque là franchement, ils n'ont pas eu non plus des grosses situations, et c'est pas la première fois depuis la remontée de Lens en Ligue 1 que Rennes tombe vraiment sur un os tactique, en tout cas.
Ouais, et ça s'est encore vu en première mi-temps. On se souvient des derniers matchs où on avait évoqué ces matchs un petit peu fermés, matchs un petit peu plus tactiques, même si Francaise disait, moi c'est des matchs où j'ai quand même pris du plaisir à les regarder, ces matchs-là. Mais Antoine, on a encore cru que ça allait être ce genre de match, parce qu'à la mi-temps, en termes d'expected goal, on est à 0,09 pour 0,04 quand même. C'était en termes de tirs, en termes d'occasion, c'était assez pauvre.
C'est un peu différent d'un match où on peut avoir Lens qui a le ballon et une équipe qui joue très bas en face. Là, le Rennes n'était pas spécialement bas, comme Lens n'était pas spécialement haut, comme on l'a dit précédemment. Voilà, c'est une forme de respect. Après, moi, j'explique en partie aussi le manque d'occasion et de créativité. C'est que le jeu a été très haché en première mi-temps. Il y a eu beaucoup, beaucoup de fautes. Un seul carton jaune, moi, je trouve ça un peu miraculeux. Ça reste un très bon arbitrage. Justement de ne pas cartonner dès que ça déballe dans tous les sens. Justement, après, si les deux équipes veulent mettre de l'intensité, soit, il n'y a pas de souci avec ça. Et donc, c'est forcément des conditions qui font que ce n'est pas propice à ce que ça joue à droite, à gauche, et que ça aille un peu dans tous les sens. Si le rythme est sans cesse haché, c'est forcément un peu plus compliqué pour se créer des occasions. C'est aussi deux équipes qui sont des équipes de haut de tableau, donc c'est dans la nature de ces matchs où plus on va avancer dans le match, plus ça va se découvrir. Donc moi, je n'étais pas spécialement étonné que ça se passe comme ça. C'est forcément plus facile à dire en après-match, mais je n'étais pas étonné que cette première mi-temps soit assez fermée. Et même si, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas pléthore d'occasions, comme on l'a dit, expected goal, si tu cumules les deux, tu n'as même pas 0-1. Mmh. C'est pas pour autant qu'on ne prend pas plaisir. Donc c'est un peu paradoxal. Nous, on aime bien voir du jeu, etc., surtout sous Franck Hez. Mais c'est aussi ce genre de match qu'il faut savoir jouer. et que si tu arrives à bien les négocier, comme on a su le faire, c'est des paliers que tu arrives à franchir en fait, en termes d'approche des matchs, et aussi le regard que les autres équipes, comme Greg l'a très bien expliqué, les équipes quand ils viennent et quand ils vont jouer Lens, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ils vont avoir une sorte de crainte psychologique qui fait que ça va jouer aussi sur le jeu et qui peut nous être favorable.
Bah ouais, t'as raison, parce que malgré les stats peu reluisantes, entre guillemets, on s'est pas ennuyé du tout dans cette première mi-temps. En tout cas, Thomas, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je me suis pas ennuyé du tout.
Non, c'est clair. Il y a des fois, tu regardes le chrono, tu te dis, putain, il y a qu'un quart d'heure de jeu. Mm. Là, c'est quand même passé assez vite. Et après, pourquoi on démarre timidement? Forcément, on les attend un peu aussi. On sait la vitesse et la force de Matatari en attaque. Les trois centraux ont un positionnement assez bas au global sur le match par rapport aux trois premiers matchs du championnat. Et Sotoka est aussi beaucoup plus bas. Et en deuxième mi-temps, il remonte un peu plus. On le voit sur la passe qu'il fait, même si le défenseur la coupe pas, mais elle part bien sur le but de Loïs.
Ouais. Sur le but de Luis Openda, et tu fais la bonne transition, puisque on va parler de cette vague qui a déferlé hein, à partir de la mi-temps, hein, reprise de la seconde période. La vague lensoise entre la 45e, la 60-65e, ça a déferlé de partout. On a presque été étonné de voir un tel écart entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps en termes d'occasion, en termes d'espace dans la défense rennaise. Guillaume, tu t'es dit quoi? C'est un deuxième match qui commence?
Non, mais je me suis dit qu'effectivement, les Rennais sont revenus des vestiaires. Peut-être ils ont eu aussi le contre-coup physique. Hein. Ils ont pas réussi à se remettre. Et puis nous, on leur a pris à la gorge tout de suite. Et je pense que la première occasion même qu'on a de Sotoka, son centre-tir, là, ça donne le ton un peu de la période qui va se passer. Et je pense que ça nous met aussi un peu... Bon, bah voilà, on va savoir... je vais pas dire en confiance, pas dans le sens où on manquait de confiance, mais ça nous donne des signes positifs qu'on va pouvoir réussir. Et donc effectivement là on a une étreinte sur eux pendant 20-25 minutes, beaucoup de coups de pied arrêtés d'ailleurs les corners qu'on a plutôt mal négociés, je trouve. Un peu alors pourtant je trouve que on est passé pas mal aussi côté gauche hein, par Machado. Il y avait des espaces qui sont créés. Bon, je pense qu'il a manqué un peu par moment de bon centre, hein, parce qu'on aurait pu aussi peut-être ouvrir le score avant d'attendre la 65e, etc. Mais effectivement, même Pereira da Costa en deuxième mi-temps, on a commencé à le voir. Il a essayé de tirer, il a essayé de provoquer, ce qu'on n'avait pas vu en première. Hein. Bon, pas beaucoup d'espace finalement. Donc les espaces se sont ouverts aussi, parce que je pense que l'équipe de Rennes, à un moment, bon. Elle a essayé de tuer les vagues, et puis à un moment ils ont craqué, parce que
il y a eu peut-être une usure faite par les Lensois, une usure physique, peut-être psychologique également. Peut-être qu'ils s'attendaient pas à un début de deuxième période comme ça non plus, Greg. Les Rennais, quand on a vu la première période, peut-être qu'ils se sont dit ça va reprendre tranquillement, on va pouvoir encore gérer, maîtriser les attaques.
Ouais, peut-être, mais je pense que oui. En tout cas, il y a une rupture nette dès la première minute de la deuxième période dans les intentions, dans les attitudes. Ça veut pas dire que Lens était attentiste jusque là, mais peut-être qu'ils ont senti simplement qu'il fallait les agresser. Et comme l'a dit Guillaume, il y a cette première situation. Alors pour moi, c'est pas un centre-tir, c'est un tir trop croisé. C'est clairement, il veut frapper.
Mais
oui, ça aurait pu. C'est vrai que ça aurait pu profiter à Loïs Openda, je crois, au deuxième poteau. Ouais. Mais rapidement, et puis surtout, Lens a vite trouvé vraiment des espaces sur les côtés à ce moment-là, que ce soit pour Frankowski ou pour Machado, ce qu'il a eu du mal vraiment à trouver aussi en première période. Et évidemment, quand vous avez un système comme celui-là, si vous commencez à toucher les ailes avec un peu plus de place pour aller centrer, un peu plus de place pour combiner, bah c'est plus simple. Et puis, il faut quand même aussi admettre qu'il y a une justesse technique entre les lignes, notamment par Sotoka, mais d'autres aussi, et David Pereira da Costa, qui était invisible en première période et qui s'est un peu plus immiscé un peu dans le jeu, bah, qui a permis aussi à cette équipe de trouver encore plus de l'aération dans le trafic, ce qu'il n'avait pas réussi à trouver en première période, et de se créer des occasions. Et là, en plus, Bollaert, d'habitude, et c'est Fabien Simon qui disait ça d'ailleurs samedi très justement, il disait, d'habitude ça peut être le public qui fait monter en régime l'équipe. Là, ça a été un peu l'inverse. Moi, j'ai trouvé Bollaert en première mi-temps un peu en attente, et c'est cette entrée en matière qui a aussi créé cet environnement propice à mettre le feu. Et il y a eu 3-4 situations très très chaudes, Et puis après, il y a eu le. On en reparlera certainement après. Il y a eu Superman qui a mis sa
Et
cape.
après, il y a eu le génie de Seko Fofana, tout simplement. Hein. Il fallait peut-être lui, finalement, pour débloquer ce match où on se demandait si ça allait réussir à passer, même si les ouvertures commençaient à arriver. Il fallait peut-être un exploit comme Seko l'a déjà fait l'année dernière. Mais peut-être que finalement, ça ne pouvait se débloquer que comme ça, Antoine Combes, ce but de Seko Fofana. Comment tu l'as vécu, toi?
Bah, un peu comme une délivrance parce que, comme l'ont dit mes deux chers collègues, le premier quart d'heure est totalement lensois. On a vraiment vu que Lens dans la partie de terrain rennaise. Et moi, je suis inquiet, c'est quand on a un temps fort qui se prolonge et que tu n'arrives pas à marquer. Parce que forcément, si d'entrée, deuxième mi-temps, comme je disais au tout début,
tu te dis qu'il va y avoir le contre-coup derrière, quoi.
Ben, c'est ça, tu vois, où tu te dis, bon, on lâche les chevaux, on donne tout, et il faut absolument marquer sur le premier quart d'heure et leur faire mal. Si tu ne marques pas, c'est déjà très frustrant. 2-2, ça va donner confiance à l'adversaire. Et 2-3, tu te seras épuisé. Est-ce que tu arriveras à remettre une couche pour repartir? Et on a la chance d'avoir l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 dans nos rangs, hein, de toute façon. Et il réussit. On sait qu'il va faire ce geste un peu. Bon, j'extrapole un peu, mais à la Arjen Robben, mais côté opposé, quoi. Tu sais qu'il va faire son passement de jambe, tu sais qu'il va revenir sur son pied droit, et ça passe quand même. Et limite, tout le stade savait que ça allait arriver. Mais après, bon, ça reste toujours merveilleux de voir ce genre de geste. Ça arrive au bon moment parce que je pense qu'on arrivait sur la fin de notre temps fort. Et ça permet de vraiment mettre un bon coup de massue sur le Rennais parce qu'ils n'avaient pas vu le ballon pendant 15-20 minutes. Et ponctuer ça par un but, déjà, c'est très mérité, c'est très logique. Mais vraiment, dans le scénario du match, comme tu le disais, et je trouve que c'est très bien dit pour entamer la deuxième mi-temps, c'était un nouveau match qui commençait. Mmh. Et vraiment, arriver à la moitié finalement de ce nouveau match, à la 20e minute, ponctuer ça par un but, c'était exactement ce qu'il nous fallait. Et c'est très bien pour le contexte du match.
Et là, d'un coup, ça lance le match. On a l'impression que le match devient un petit peu foufou de part et d'autre des équipes. Donc déjà, ce but est formidable. Hein. Le pauvre Désiré Doué, un 17 ans, qui se fait un petit peu balader par Seko. Malheureusement, ça tombe sur lui, hein. Même s'il n'avait pas fait un mauvais match jusque-là. Seko Fofana qui nous fait sa spéciale. Ça fait exploser le stade. T'as l'impression que le match se lance, que l'ambiance vraiment prend également. Et puis 5 minutes plus tard, Thomas, la deuxième lame, on va dire peut-être un peu chanceuse, mais un peu provoquée également par Loïs Openda, et surtout une belle passe de Florian Sotoka qui fait encore un très beau match.
Bah, la chance peut-être, oui, mais il faut avoir la vision, il faut avoir le dosage, tout est bon dans la passe de Sotoka. Peut-être que le défenseur doit couper, peut-être qu'il doit intervenir un peu plus tôt, mais... Il sent pas la passe de Sotoka et après Openda joue bien le coup face à son défenseur et après il n'y a plus qu'à ajuster le gardien. Et après c'est peut-être le lot aussi des grandes équipes. Quand le collectif ne fait pas la différence, il faut un petit coup de génie et un petit coup de chance provoquée.
Ouais. Moi je suis pas d'accord avec ça, je me permets juste, hein, parce Vas-y, que pour moi justement c'est le collectif. Alors évidemment on va cibler ce but iconique, hein. Clairement c'est un but iconique de Seko Fofana. C'est un des plus beaux buts que moi il m'était donné de voir parce qu'il a un mélange de puissance, de confiance en soi, de technique. Ses 4 passements de jambes, enfin c'est même pas des passements de jambes, il danse avec le ballon. On dit qu'il a dansé avec Désiré Doué, mais pour moi il a dansé avec le ballon. Je pense que un défenseur qui recule sur son premier pas face à Seko Fofana dans cette zone est fatalement battu. Mais ça aurait été, il y a beaucoup de défenseurs qui auraient pu tomber et il y a très peu de gardiens qui auraient pu arrêter cette frappe derrière, qui assomme, qui libère Bollard, c'est vrai, et assomme un peu les Rennais. Et il y a ce deuxième but qui, lui, est vraiment, pour moi, un acte collectif. Il y a 15 passes d'affilée, il y a 8 joueurs qui touchent le ballon. Alors oui, la passe de Sotoka, elle n'est pas parfaite, parce qu'elle est un peu longue. Mais il y a tout dans ce but. Il y a des dédoublements de passes. Ça part de derrière, ça panique pas. Alors que Lens vient d'ouvrir le score, peut se dire bon, on va sécuriser. Non, ils prennent des risques aussi pour casser les lignes. Derrière, il y a Florian Sotoka qui met ce ballon. Et on voit déjà cette relation technique entre Florian Sotoka et Openda, qui est quand même très régulière avec ses ballons en oblique dans le dos de la défense et Openda qui vient couper. Là, il est battu au duel au départ. Il y croit. Il y croit. Il y a toute une forme de foi autour de. On a l'impression qu'Openda, il a chopé la foi très vite de cette équipe. elle avait une confiance en elle en fin de saison. Et là, avec cette volonté de presser, d'aller jusqu'au bout de son effort, il s'offre ça. Et pour moi, au contraire, c'est vraiment un vrai but collectif, ce but, même si c'est lui qui a la conclusion. Et je pense vraiment que ce match, tu vois, Valentin, tu dis ce match, il est lancé au moment du but de Seko Fofana. Non, pour moi, il est lancé véritablement dès la 46e minute. On a senti une montée en pression. Et je pense que c'est ce qui a fait craquer clairement les Rennais sur la première demi-heure de la deuxième période.
Ouais. Tu parles de cette action, ça m'a rappelé un petit peu une action à Monaco également, hein, qui amène pas un but, mais juste après le premier but, il y a une très belle action qui amène un centre d'Openda et la reprise de Fofana à côté. Ça, pareil, hein, cette action-là m'a fait penser aussi également à celle-là. Et le Racing est capable de réaliser plusieurs fois maintenant, dans plusieurs matchs, ce genre d'action. Hein, je ne dirais pas de classe mondiale, mais en tout cas extraordinaire.
Et je finis là-dessus, et tu as raison, c'est qu'il y avait, à partir de la 46e minute, sur chaque centre lensois, il y avait 4, 5 ou 6 lensois dans la surface. Avec Medina aussi qui venait des fois. Et ça dit tout, en fait, des intentions de ce moment-là. Et il y a très peu d'équipes qui peuvent se projeter comme ça pendant 20 minutes. Sans prendre trop de risques finalement, parce qu'il n'y a pas eu trop d'occasions rennaises, et en étant très dangereux sur une longue période comme ça, face à une équipe en plus qui est quand même du top niveau de Ligue 1.
Ouais.
Si je peux
vas-y,
juste rajouter,
ouais.
c'est ça aussi qui fait maintenant, je trouve, par rapport à l'année dernière, la force de notre jeu offensif, c'est la variété dans nos attaques, où on est beaucoup moins lisible. Autant l'année dernière, tu savais, bon, attention à Klose quand même, c'est ça vient souvent de son côté, c'est souvent lui les passes décisives, etc. Là maintenant, tu as le jeu en profondeur, tu as le jeu collectif, tu as des demandes de passe. Tu commences vraiment à avoir une palette de plus en plus de plus
et
en plus
et puis le danger vient de Sotoka, vient de Pereira, vient de,
ben, c'est ça donc ça use aussi la défense adverse. Est-ce que là on doit monter, est-ce que là on doit être un peu plus patient, est-ce qu'on doit jouer un peu plus large, un peu plus serré, et ça c'est aussi ça qui use un collectif adverse, hein. Donc c'est surtout ça, moi je pense l'une de nos forces qui nous fait passer un cap cette année, c'est justement cette variété qu'amènent les différents profils, et encore plus quand on aura notamment Buxa par la suite, j'imagine. Ouais.
Guillaume, est-ce que Luis Openda, c'est vraiment l'attaquant tueur qui nous manquait les deux premières saisons ? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui que ce soit dans la profondeur ou dans la réalisation, en tout cas de ce qu'il montre depuis les quatre premiers matchs, on sent que ça a monté d'un step également de ce côté-là.
Assurément, c'est un top joueur et on va pouvoir le voir cette saison. Moi, je pense qu'il n'est pas encore au top de sa confiance. Moi, il y a eu 2-3 situations où j'ai été surpris qu'il ne provoque pas balle au pied. Il était quasiment en un contre un avec leur espèce de random, là, leur défenseur Rodon. Un random, ça lui va bien, je trouve.
Défenseur gallois.
Voilà, les Rondon et les théâtres, là, des mecs à 20 millions. moi, je l'ai trouvé justement qu'il n'a pas appuyé assez fort.
Il n'a pas joué, hein.
Et je pense qu'il est encore un peu, alors je vais pas dire timide parce que c'est pas ça, mais je pense qu'il est encore en train de découvrir. Et il est quand même beaucoup dans la passe encore pour un. S'il est censé être notre avant-centre, il est beaucoup dans la passe. Alors c'est super, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très collectif, donc je pense que c'est une façon pour lui aussi de rentrer dans cette équipe et de pas vouloir croquer tout seul. Mais je pense qu'il y avait une ou deux situations où ça appelait plutôt la provocation à un contre un, il l'a pas faite. Alors, je ne sais plus s'il avait trouvé une passe ou pas derrière, mais moi, je suis quand même curieux de voir son association avec Buxa, parce que pour moi, malgré tout, Openda, seul devant, alors il n'est pas tout à fait seul, mais je pense que ce n'est pas sa position privilégiée, surtout dans des matchs. Après, ça dépend les adversaires et ça dépend les contextes de match. C'est sûr que s'il y a beaucoup d'espace, plutôt de la contre-attaque, des transitions rapides, c'est vrai que bon. C'est un mini Mbappé en fait par rapport à ça. Maintenant, si on est sur des jeux de position, des blocs bas, etc., on l'avait vu à Ajaccio où c'était un peu plus compliqué. Bon, c'était aussi la pelouse. Mais hâte de voir avec Buxa justement dans les déviations comment ça peut compléter aussi et voilà et s'associer entre les deux. Mais ça va être... Openda, clairement, il est très positif en fait. On le voit même dans son expression corporelle. Il est heureux d'être là, je pense. Voilà, et ça démarre bien pour lui l'aventure, donc c'est top.
Ouais. Tu disais l'association Buxa Openda. J'ai hâte de voir quand même si déjà il va aligner les deux et comment il va réorganiser quand même. Ouais. Ce sera un autre débat, hein. Mais sortir Sotoka, sortir ou sortir Pereira, j'ai hâte de voir quand même comment ce que ça va donner dans le futur cette association. Il y a quand même eu une fin de match un peu plus compliquée, hein. Même si on en reparlera dans le débat, hein, de la deuxième mi-temps, on va quand même évoquer cette fin de match un petit peu et notamment l'entrée d'un certain Gaëtan Laborde qui a fait énormément de mal à la défense lensoise. C'est quasiment lui avec Souleymana qui se procure les meilleures occasions dans le dernier quart d'heure, les 20 dernières minutes, où après le but d'Openda, finalement, on voit plus trop les Lensois, Antoine, et les Rennais mettent vraiment le coup de collier qu'il faut pour, encore une fois, nous faire stresser jusqu'au bout.
Moi, de par la fin du match, je me dis, Genesio, il est pour beaucoup dans la défaite de Rennes, parce que pour moi, il se plante sur sa composition. Parce que de ce qu'on a compris, Laborde débute sur le banc parce qu'il y a des rumeurs mercato avec un échange pour Guiri, etc. Pour moi, de Laborde, tu dois le mettre titulaire et tu vois très bien pourquoi sur le match. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours plus facile à dire après le match, forcément. Mais pour moi, Laborde, il doit démarrer titulaire et on le voit très bien pourquoi. Sulemana, pareil, il rentre, c'est un dragster le mec. Donc pour moi, elle est en partie pour lui cette défaite. Après, pas oublier qu'on a aussi un gardien qui nous fait déjà gagner des points. C'est en moyenne une à deux grosses parades par match. Donc même si on souligne Laborde, tout d'abord moi j'ai envie de souligner Samba. Hein,
on en parlera dans les notes. On en parlera dans les notes, Antoine.
Parce que vraiment, il nous fait aussi, comme disait Guillaume, l'assurance que dégage, la positivité que dégage Openda. Samba la dégage aussi quoi. Donc c'est tout aussi rassurant. Après oui, Laborde. Quand il est rentré, limite, tu te dis, bon, pourvu qu'il marque le plus tard possible, quoi, parce qu'il se crée pas mal d'occasions. Puis c'est un vrai danger, le mec. Hein. Pour moi, c'est un top attaquant Ligue 1. Hein. Donc, vraiment, vraiment dangereux. Donc, puis bon, Lens, malgré tout, reste Lens sur certains points. Et on aime à jouer à se faire peur. C'est pas prêt de changer.
On essaiera d'expliquer, essayer de réfléchir à ces raisons dans le débat en deuxième partie d'émission. Et essayer déjà de donner vos idées, vous, dans le chat de l'émission, de savoir pourquoi le Racing a parfois encore du mal à terminer ses matchs. Dans le chat, Popopi nous dit l'entrée de Laborde nous a fait très mal quand même. Et puis il y a Squall le Canard qui nous dit Openda puissant et intéressant pour le jeu en profondeur. Il a raison et ça se voit depuis le début de la saison. On va noter des joueurs, messieurs. Petite nouveauté dans les notes, je vais vous attribuer un joueur à chacun. Il me semble que notre ami Sam Duhamel faisait déjà ça un petit peu il a pris ma place quelques fois. Je vous ai attribué un joueur à chacun. À vous de nous donner sa note et rapidement de nous dire ce que vous en avez pensé. Ce ne sera peut-être pas le cas tout le temps, mais là, j'ai trouvé un joueur par ligne. Donc, je commence avec toi, Greg, et avec Brice Samba, justement.
Ah, Brice Samba, 7 pour moi, parce que déjà au pied, c'est quand même très, 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 très techniquement sûr. Voilà, c'est techniquement sûr, même s'il y aura peut-être une ou deux fois dans l'année où ça va provoquer soit un but, soit une action dangereuse. Avoir une rampe de lancement aussi sûre, même quand il est sous pression d'un attaquant adverse, je sais pas, il dégage une forme de sérénité. Alors peut-être que une fois il se plantera et il nous fera une Hugo Lloris en finale de la Coupe du Monde, mais voilà. Donc déjà ça, évidemment son autorité naturelle, et puis cet arrêt qui arrive à la 75e minute, quelque chose comme ça, quand Caïtan Laborde vient de rentrer, c'est pas du tout la même fin de match. Si tu prends ce but à ce moment-là, il se couche très très vite malgré son envergure, très très vite. Moi, il m'a vraiment impressionné parce que ça va très très vite. Ça m'a rappelé un arrêt d'une fois de Jean-Louis Leca il y a quelques années, pareil sur un corner, je sais plus en Ligue 2, mais où il s'était vraiment jeté très très vite côté gauche. Sauf que on n'attend pas forcément ça d'un gardien aussi longiligne, on va dire. Il est un peu masqué. Et cet arrêt, il change quand même beaucoup, beaucoup de choses sur la fin de match. Il a été bon aussi dans les prises de balles. Et puis, il a une forme d'autorité naturelle. Pas que sur ce match, on l'a vu il y a deux semaines à Ajaccio, où il a eu une occasion. Moi, j'avais juste sur Brice Samba. J'avais peur, je ne savais pas trop ce qui valait sur les sorties, justement, parce qu'il a un gabarit où Jean-Louis Leca lui sort très, très vite. Et pour le coup, que ce soit Ajaccio, que ce soit la semaine dernière contre Wissam Ben Yedder, à chaque fois qu'il a eu des arrêts décisifs à faire, il est sorti très, très vite. Et c'est compliqué de trouver un angle pour lui mettre un but. Il est rentré un peu dans la tête des attaquants rennais, je trouve, au fil du match. Ça ne l'a pas empêché de prendre un but où il ne pouvait rien faire. Mais 7 sur 10, ça m'a l'air pas mal.
Si on peut faire un petit peu plus court pour les suivants. En termes de technique, messieurs, c'est super. Thomas Fauvert, je t'ai donné Jonathan Grady.
Lance fait du lance et Grady fait du Grady. Sur un derrière, après sur le but, il tacle, le ballon peut partir en corner comme en 6 mètres. Il revient sur Laborde qui est plus rapide à se lever que Jonathan Grady. Il met une mine dans la lucarne de Samba, on n'y peut rien. Mais voilà, il nous a fait des montées, des passages de milieu, voire de défense. Et il nous a sécurisé la défense derrière. Donc, un joli set.
Ouais, un joli set.
Ça va, ça c'est vite.
Ouais, ouais, c'est très bien. C'est parfait. Guillaume, je t'ai donné. C'était trop facile, Fofana. Donc, je t'ai donné Samed.
Ouais, c'est pas évident à noter, je trouve, Abdoul Samed, parce que, enfin, c'est peut-être il était dans le cœur du jeu, je ne l'ai pas forcément beaucoup remarqué, alors que bon, il a fait un bon match également, puisque voilà, on n'a pas été vraiment, en tout cas dans les 75 premières minutes, on n'a pas beaucoup subi, et il a aussi beaucoup pressé en début de deuxième mi-temps, mais je lui mets autour de 5, 5,
ouais. 5 pour Salis Abdou Samed. Propre, sobre, mais efficace.
C'est ça, c'est ouais. Efficace. Ouais, c'est...
Voilà. Bon, ouais. Allez, on va terminer avec Antoine et Florian Sotoka.
Bah, beau numéro 7. Hein. Ouais. Je commence à pas me raviser, mais à apprécier pleinement Florian Sotoka, qui depuis le début de saison est peut-être notre meilleur joueur. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Mais en tout cas, il est dans le top 3 de nos meilleurs joueurs. Et il a encore fait un très bon match. Notamment en deuxième mi-temps. Bon, on reviendra pas sur le deuxième but, même si il est un peu chanceux finalement que sa passe finisse en but. Mais non, très juste techniquement, pour moi, il est vraiment en train de passer un cap et de vraiment avoir le niveau top 10 Ligue 1, où l'année, les deux précédentes années, c'était un peu, voilà, un peu compliqué pour passer ce palier technique, vraiment technique. Hein. Pas mental, tout ça, mais vraiment sur l'aspect technique, moi c'est sur ça vraiment que je vais insister. Les contrôles sont justes, les passes sont justes, sont dans le bon tempo, pour les bons choix de passe, etc. Donc vraiment très fan de son début de saison, donc un très bon set.
Ouais, top 10 incroyable. Des joueurs de Ligue 1, Antoine, c'est ça?
Non, pas top 10 des joueurs de Ligue 1, de top 10 équipe.
Non, mais on a vraiment l'impression qu'il a compris, en tout cas vraiment, il a assimilé ce que veut Francaise, il le fait de mieux en mieux, et c'est vrai que c'est une réelle surprise pour moi aussi de voir Florian Sotoka à ce niveau encore aujourd'hui au Racing Club de Lens au bout de sa troisième saison de Ligue 1.
Tu vois qu'il joue sans complexe en fait.
Le point mercato, hein, parce qu'on va quand même parler mercato, même si on est un petit peu en retard, il y a des choses à dire, hein, dans le mercato. D'abord, un carton rouge ou un carton vert, est-ce que l'un d'entre vous a un carton à décerner sur ce match?
Ouais.
Ou un faux vert, vas-y.
Un beau carton vert au club pour le avoir mis les tribunes derrière les buts donc de la cour et traîné à niveau zéro en tribune debout autorisée.
Ouais.
Ça demande encore à prendre feu. Ouais. On sent qu'il y a déjà les petites étincelles pour faire de ce stade un stade en fusion. Et pas seulement sur les quand on mène 1-0 ou 2-0 et que le jeu est alléchant. Mais tout au long du match, on l'a vu sur la grecque avant le début du match, tout le monde retournait. Je trouve ça visuellement magnifique et vocalement top. Donc voilà, un grand merci au club pour ça.
Juste là-dessus, il y a certainement en prévision la sono qui pourrait être mise aussi côté de la cour en lien avec les capots de la marée. En tout cas, c'est une des réflexions qui est en cours et qui pourrait amener une coordination qui, je pense, serait très intéressante pour les champs.
Ouais. Ouais. Quelqu'un d'autre pour un carton?
Bon.
Guillaume?
Ah, moi, c'est carton vert à Benjamin Brugeau.
Ouais.
J'étais déjà content de le voir et il a joué ailier gauche au premier mi-temps pour être devant la Marek. En deuxième mi-temps, il a joué ailier droit pour être devant la Marek. Benjamin, ça s'est vraiment vu. Je pense que Génieux lui a dit: bon, Benjamin, ce soir, tu joues quoi? Je joue ailier Marek. Bon, bah d'accord.
Et il a mis l'image devant la Marek aussi.
Voilà, et carton vert aussi parce que malgré la défaite, il est venu saluer.
Bien sûr.
Il est bon, voilà, je pense qu'il était content aussi parce que les deux derniers lance-rennes, bah, c'était soit huis clos, soit jauge réduite, il me semble.
C'est ça. Ouais.
Il n'avait pas pu retrouver un bollard vraiment plein. Donc voilà, j'étais content de le voir et puis de l'applaudir. Et puis lui, je pense qu'il était très content aussi et on espère qu'il revient bientôt.
Allez, moi, j'ai un carton vert vite fait, c'est Arnaud Kalimuendo pour la même histoire. C'est un superbe moment, c'est très très rare en Ligue 1 et bravo au Stade Rennais, bravo à lui, bravo au RC Lens et bravo au public de Bollard, c'était vraiment sympa. Et le carton rouge, moi c'est juste par rapport au Racing Club de Lens, c'est avec je trouve qu'il y a un vrai déficit sur les coups de pied arrêtés depuis début de saison.
Ça mériterait un débat également. Ouais.
Ça mériterait un débat, ouais. Je trouve que ça manque de conviction en tout cas dans les frappeurs.
Ouais, ça pas convaincu par Frankowski, moi personnellement.
Voilà, moi moi je voilà, ou alors je me souviens que Pereira da Costa à Ajaccio aussi avait eu un bon coup franc à 25 mètres où il manquait complètement de conviction, de justesse technique. Et évidemment, on n'est pas là pour comparer, mais quand vous passez de Jonathan Clauss à des joueurs qui, on se demande même s'ils ont très envie de le frapper parfois dans les attitudes, ils savent pas trop quoi faire. Et ben voilà, donc je trouve que c'est un vrai axe de progression, surtout que avec la taille de Danso ou d'autres, il y a ou Medina qui a aussi un bon jump. Il y a peut-être moyen d'être encore plus efficace devant si ces situations-là sont mieux gérées.
Ouais. Allez, t'avais un carton rapidement, Antoine, ou...
Oui, très rapide. Ouais. De toute façon, j'en ai déjà un tout petit peu parlé. Carton vert pour l'arbitre, qui, comme je l'ai dit au tout début, aurait pu continuer à dégainer. Ça m'a fait penser à son match, je crois que la dernière fois qu'il nous a arbitré, c'est le derby retour à Lille la saison dernière, où là aussi, il y avait eu pas mal de fautes qui auraient pu engendrer pas mal de cartons jaunes. Là pareil, sur le match contre Rennes, il y a eu pas mal de fautes, il aurait pu dégainer à tout va. On a des arbitres tout de suite en tête qui auraient sorti 10 cartons jaunes de chaque côté. Donc voilà, c'est très bien pour la tenue d'un match et c'est dans la continuité de l'arbitrage qu'on avait eu contre Monaco.
Ouais, je l'avais noté également. Et puis, mercredi, on sera arbitré par Monsieur Bastien, qui est un très bon arbitre également. Donc ça, je suis ravi et j'ai hâte de voir ce match-là. On en parlera en deuxième mi-temps. Point mercato avant la mi-temps, messieurs. Il y a pas mal de choses à dire. On va essayer d'être succinct malgré tout pour essayer de tenir les timings. D'abord, cette incertitude toujours autour de Seko Fofana. Hein. Est-ce que ça vous agace, vous, ou pas? Moi, j'ai trouvé ça un petit peu agaçant, sa déclaration d'après-match. Même si c'est normal, on va me dire, oui, c'est le jeu, etc. etc. Mais moi, ça m'a un peu agacé. Il me semble que la Voix du Nord, la Voix des Sports parle de deux pistes malgré tout activées par le bord de Kaou. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette situation Seko Fofana? Greg, je te donne la parole, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça t'agace? Est-ce que tu comprends?
C'est le football, je veux dire, vous avez un joueur qui est au maximum aujourd'hui de sa popularité, qui est surpuissant, qui marque un but iconique, je l'ai dit tout à l'heure, et qui est le guide et qui évidemment est à Lens et qui, pour vu de l'extérieur, on se dit mais pourquoi il n'y a pas plus de sollicitations? Il en a forcément, hein, évidemment qu'il en a. Et moi, je vois pas en quoi c'est agaçant, c'est le jeu.
Qu'à 5 jours encore de la fin du mercato, on puisse encore se dire ah, va partir, va pas partir. Bah, je sais
ah, mais
pas,
c'est la, bah... ça, c'est la faute du mercato. Ouais. C'est malheureusement la faute du mercato et des clubs comme Lens aujourd'hui, ils peuvent être assurés de rien jusqu'à la dernière minute. Même si, voilà, quand je me souviens d'une fois Jean-Louis Leca qui avait dit, alors qu'il sortait d'un barrage perdu, enfin gagné même avec Ajaccio, qui était content de rejoindre Lens en pleine interview après match quasiment. Ça avait gêné personne ici, j'imagine. Dans l'autre sens, il faut accepter le jeu, de ce moment-là. Et nous, le rôle de la presse et des gens qui l'ont interviewé après le match était d'en savoir un peu plus, parce que je pense qu'on est pas les seuls à se poser des questions. J'ai cru comprendre que 37 000 un peu plus de spectateurs qui étaient au stade Félix Bollard, et même les 750 Rennais qui étaient là, ils aimeraient bien savoir où va aller Seko Fofana l'année prochaine, parce que c'est tout simplement l'un des 10 meilleurs joueurs en Ligue 1 aujourd'hui, largement.
Tu penses qu'Ajaccio va nous rendre l'appareil de l'ECA, du coup, Greg? Je pense qu'Ajaccio va nous faire le même coup à l'envers.
j'ai pas dit ça, mais s'ils refont leur pelouse, je pense qu'ils ont plus intérêt à mettre de l'argent pour refaire leur pelouse que
dans la pelouse. Ouais.
C'est mieux, ouais, c'est ça.
Ouais, on a vu le public chanter Seko reste là. On a vu des rumeurs comme quoi Rennes s'était intéressé à Seko Fofana également ces derniers jours. Globalement, Guillaume, t'es agacé par cette situation?
Non, je suis pas agacé. Par contre, je t'avoue quand même que ça m'inquiète un poil quand même.
Ouais.
Moi, je pensais effectivement que plus les jours avançaient, plus la situation était entendue. Et puis voilà, on imaginait peut-être qu'à un moment, il s'était donné une date avec le club. Et puis à un moment, c'est tout, on coupe les cours. Et donc du coup,
voilà, moi, je pensais pas que ça allait durer jusqu'à la fin. Ouais.
Seko aurait très bien pu annoncer samedi soir après le match. C'est tout, il reste 5 jours. De toute façon, j'ai décidé de rester, machin. C'est pas le cas parce qu'a priori, il attend encore. Alors, il a des conditions, il attend encore peut-être. Mais je pense que lui, il est serein. Alors, on a beaucoup de joueurs en ce moment, tu sais, en mercato, Antoine parlait de la board, ils sont peut-être en départ, on les fait pas jouer, etc. On pense à aussi un joueur comme même Bourigeau, on savait pas trop un peu. On trouve que c'est un joueur qui sont un peu en dedans. Lui, Fofana, en tout cas, il gère ça très bien, en tout cas. C'est positif. Lui, il se dit, si je pars pas, je reste à Lens, je suis bien, je suis capitaine, mon club démarre fort, je suis content. Si j'ai une super offre où je peux jouer à la Ligue des Champions et où je vais multiplier mon salaire par 2 ou 3, et je serai content aussi. Donc au moins, c'est géré positivement, même si on espère une issue favorable, bien entendu.
Il nous reste encore quelques jours à trembler, parce que malgré tout, on tremble en tant que supporter lensois. Antoine, tu penses qu'il peut encore partir là aujourd'hui, Seko? Tu crois que ça peut encore, une grosse offre qui convainc tout le monde peut arriver d'ici jeudi?
Ça, c'est ce qui a toujours été dit de toute façon, même dans le discours de Seko Fofana. il a toujours tenu le même discours. Donc moi, je ne suis pas étonné de sa sortie après le match contre Rennes. Et pareil par rapport à l'incertitude qui règne autour de sa position. Partira, partira pas. J'ai jamais vu un club dire, dans le cadre d'une période de mercato, son joueur phare est convoité, dire bon non, il va rester. Il n'y a rien à dire. Si le club n'a rien à dire parce qu'il n'y a rien qui se passe, on ne va pas faire un communiqué pour dire ben, c'est que Fofana reste, alors que bon, bah, c'est... il ne se passe rien, donc il n'y a rien à dire. Pour moi, il va rester, je l'avais déjà dit dans une précédente émission, sauf évidemment s'il y a la fameuse offre irrefusable. Mais non, moi, j'ai l'intime conviction qu'il va rester.
C'est ce qu'a dit un petit peu Brice Samba dans les couloirs de Bollaert après le match. Hein. En tout cas, je ne sais pas si c'était un vœu plus qu'une affirmation, mais il a dit il va rester avec nous, il va rester avec nous. On a vu également un article du Guardian cet après-midi, parce que oui, le Guardian parle de Lens maintenant, le journal britannique, qui s'avançait un petit peu et qui disait également que Seco allait rester au Racing cette saison. Bon. On verra bien rapidement pour finir sur le sujet. Thomas, est-ce que tu as quelque chose de plus à rajouter?
Non, non, mais après, sur son but, alors je me demande s'il se tape le torse, s'il se tape le cœur ou s'il tape le blason. Alors, en voyant ces images, moi, je le vois après avoir vu son discours à Canal+, tu dis, ah, c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit croire? Donc, moi, je préfère croire qu'il s'est tapé le blason et qu'il ne pouvait pas dire qu'il restait parce qu'on peut toujours avoir une offre mirobolante. Mais il aurait bien aimé, à mon avis, annoncer devant une marée qu'en fusion, je reste. Ouais, mais... Et j'ai l'impression que Samba lui dit à l'oreille quand il a le micro, vas-y, vas-y, dis-le.
Ouais, juste pour la petite histoire, faire attention à tous ces trucs-là. Moi, je me souviens que Tony Vérel, lors de son dernier match à Lens, il avait sorti une banderole. Tout le monde croyait que c'était marqué je reste à Lens, alors que c'était marqué bonne fête maman. sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces images. Et je me souviens de lendemain de match où tout le monde disait en fait, il a annoncé par banderole qu'il est resté, mais pas du tout, puisqu'il avait signé à Lyon quelques semaines après. C'était juste bonne fête maman. Donc, attention quand même à tous les symboles. Ça ne veut rien dire, évidemment. Ouais. Mais je sens que tout le monde regarde quand même les yeux de ses Fofana.
On cherche quelque chose, un signe.
Juste pour rajouter, pour conclure, il aime bien jouer avec la com aussi. Moi, je me souviens au moment de son arrivée à Lens où tout le monde dit « Ouais, c'est Fofana va signer, etc. » Et lui, il avait mis une photo où il était à l'autre bout du monde sur Insta. Ouais, il était à Lens.
Localisation.
Donc, je pense qu'il s'en amuse aussi.
Il joue avec aussi.
Mais le lexique un peu qu'on engage, ça montre quand même qu'on est amoureux de ce joueur. Hein.
Oui, bah, comment ne pas l'être, comment ne pas le prendre en icône, hein, après ce qu'il nous fait vivre depuis qu'il est arrivé au club. Bon, la réponse, ce sera jeudi à 23h. Pour finir sur le mercato, on parlait hein, d'un prêt de Patrick Berg. Il paraîtrait que finalement, ce serait un transfert et un retour à Bodø/Glimt pour une somme qui avoisine celle que Lens avait mis au mercato d'hiver, c'est-à-dire que ce serait une opération blanche. Vous êtes surpris finalement que ce soit un retour au bercail sans être un prêt pour Patrick Berg qui apparaît quand même malgré tout comme une petite erreur de casting. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur le sujet, qui prenne la parole tout simplement?
Moi, je suis surpris que Bodø/Glimt le rachèterait au même prix, ça c'est sûr. Parce qu'en général, quand un club vend un joueur très cher et qu'il récupère un an après, souvent, il se fait prêter pour rien.
Même pas un an, c'est 6 mois là. Hein.
Ouais, et c'est même pas 6 mois, effectivement. En général, il négocie avec le club et au mieux, il y a une petite indemnité, mais c'est jamais le montant de ce que tu l'as vendu. Donc, effectivement, après que lui retourne dans son pays parce qu'il a le mal du pays, parce que c'est peut-être la solution de facilité pour lui aussi, et notamment aussi dans le cadre de son l'équipe nationale norvégienne. Bodø/Glimt, c'est un bon club, ils sont en Europa League, je crois. Donc, bon. Ouais. C'est bien. Hein. Enfin, après, je pense que si c'est ça, tout quelque part, bah voilà, on a fait 6 mois, ça marche pas. Bon, bah, on se serre la main, on se quitte bons amis, et puis il y a personne qui y laisse des plumes. Hein, donc,
ouais. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur ce transfert hein, de Patrick Berg qui repartira en Norvège, où tout a été dit. On peut passer au quiz.
Je pense simplement qu'il est tombé sur une concurrence plus forte que lui et il fallait qu'il s'intègre hyper hyper vite parce que justement cette équipe, ce club et cette équipe est dans marche à un train d'enfer et elle peut malheureusement pas attendre. Tous les mecs se mettent à niveau. Abdoul Samed s'est mis au niveau rapidement dans un registre d'harceleur. Techniquement, moi je trouve que Patrick Berg avait quelque chose. Après, dans l'impact physique, il a eu du mal certainement à se mettre au niveau de la Ligue 1 et peut-être que ça va lui faire aussi du bien pour lui. Peut-être que c'est bien pour Lens, ça libère une place. Et finalement, si tout le monde se quitte bons amis, ben, ce sera juste une mauvaise expérience pour les uns et pour les autres, mais sans finalement une grosse incidence. Donc, ouais. C'est pas si mal.
On verra ce qu'il en est. Il y a aussi le sujet Kakuta qui n'est toujours pas terminé, le sujet Ganago. Il y a un bruit de couloir que j'ai vu par un journaliste du Parisien, comme quoi Lens serait en discussion avec Alexis Claude Maurice. Bon, on ne sait pas ce que ça vaut. On verra.
Trois joueurs d'un coup façon.
Le joueur de Nice.
Trois joueurs d'un coup,
hein. C'est nul. C'est nul. Allez, on passe au quiz. Vaut mieux. Merci. Le mercato, on aura le temps d'en reparler hein, quand ce sera fini finalement. On va jouer, messieurs. Hein, la mi-temps un peu en retard, mais il y a eu des arrêts de jeu assez longs. On va jouer avec le quiz de Culture Sans Heure, une nouvelle formule un petit peu du quiz. On a décidé hein, dans Culture Sans Heure.
C'est le board qui a décidé ?
C'est le board qui a décidé, tout à fait, le board de Culture Sans Ailleurs s'est réuni et a décidé de faire deux équipes maintenant pour le quiz de Culture Sans Ailleurs. Vous serez deux dans chaque équipe et vous allez tenter de répondre à ce quiz. Alors le tirage au sort a été fait par la main innocente d'Alexis, hein, notre technicien
Culture Sans Ailleurs. Innocente, moi je le connais bien, enfin, bon bref.
Et je vous donne les équipes, c'est Greg Thomas et Guillaume Antoine.
Ah, on a compris. Hein.
Ah, oui, franchement, hein, je lui ai demandé tout simplement sans donner les noms et il m'a fait ce tirage au sort. Maintenant, voici le quiz. Lens réussit son meilleur début de saison depuis 2001-2002. Francaise compte 1,61 points par match. Je vais vous demander de me donner le top 10 des entraîneurs avec le meilleur ratio points par match en Ligue 1, première division. Il faut qu'ils aient au moins fait 20 matchs et c'est depuis les années 80.
Ah oui, d'accord, depuis les années 80, d'accord.
Voilà. C'est parti, on a la team Greg Thomas qui va commencer.
Bon, Thomas, tu dis pas Giroud, s'il te plaît, juste tu dis pas Giroud.
Je voulais le dire.
Allez, c'est parti.
Vas-y, Thomas, je te laisse, vas-y.
Je dis Patrice Berg.
Patrice Berg, c'est bon, bravo Thomas. Patrice Berg. 1,58.
Tu peux rappeler la question en fait.
Top 10 des entraîneurs avec le meilleur ratio points par match.
Ah oui. Pas forcément D1. Sur les premières journées. Sur.
Non.
On peut le dire ou pas?
Allez Antoine, Guillaume, à votre tour.
Ah mais Francaise, il est compris dans le jeu ou il est.
Oui, il est top 10. Hein. Il est top 2.
Oui, top 10.
Ok.
Par contre, vous dites Francaise. Vous dites Francaise.
Ouais,
vas-y. Ouais, c'est bon. Francaise, c'est bon. Greg, Thomas.
Daniel Leclerc.
Bah wow. Évidemment, Daniel Leclerc. Daniel Leclerc est premier de ce classement. Guillaume Antoine.
Joël Muller.
Joël Muller, c'est bon avec 1,51. Thomas Grégory.
C'était quoi la condition minimum de match?
Au moins 20 matchs et c'est depuis les années 80.
Francis Gillot.
Francis Gillot, ouais.
Ouais, Francis Gillot, 1,57, c'est bon. Guillaume Antoine.
Antoine, je sais pas ce que t'en penses. On peut discuter entre nous, hein.
Ouais, non, mais rapidement. Bien sûr.
Moi j'aurais dit François Brisson, je pense qu'il a fait quand même 20 matchs et puis je pense qu'il a les points.
Je te fais confiance.
Allez, François Brisson.
C'est bon François Brisson, 1,58. Ça passe pour Guillaume et Antoine. Thomas, Greg.
Ouais.
6.
Allez.
Arnaud Dos Santos.
4. Arnaud Dos Santos, c'est faux.
Eh ben c'est bon. Ouais. Désolé.
Vous voulez conclure, Guillaume Antoine, vous avez la victoire, quoi qu'il arrive.
Moi, j'ai un doute.
Dis-moi.
Est-ce que Jean-Guy Wallem de ces années Ligue 1 n'aurait pas passé le point?
Je pense pas, parce que la deuxième saison, elle est plus compliquée.
Bah, c'est ça.
Sur 20 matchs, Georges Tourné, quand il a remplacé Roland Courbis, je pense qu'il fait les points aussi.
Allez, donnez-moi un nom.
Je sais pas.
5,
je pense pas qu'il fasse 20 matchs, Georges Tourné. Après, 3. C'est à mon avis.
2.
Vas-y.
Allez.
Wallem.
Jean-Guy Wallem, c'est bon, il est dans le top 10. 1,14. 1,14, Jean-Guy Wallem, hein, quand même. Hein. Et il reste dans le top 10. Il n'y avait pas de Georges Tourné, hein, qui a fait 8 matchs seulement, Georges Tourné,
oui.
D1. Hey. Il y avait Roland Courbis, malgré tout, 1,23. Joachim Marx, avec 1,29. Et vous avez oublié Gérard Houllier. Voilà.
Gérard Houllier,
1,62.
Combien pour Roland Courbis?
1,23.
Ah ouais.
Ah ouais. Gérard Houllier, 1,62 de la victoire. Et pour l'équipe Antoine Guillaume dans cette nouvelle version du quiz. Bravo messieurs, on va passer à la deuxième période, si vous le voulez bien, de ce Culture sans Yor et amorcer ce débat avant de se projeter sur le match face à Lorient. Ce débat, le Racing qui réussit un départ canon hein, en ce début de championnat 2022-2023, un de ses meilleurs départs hein, depuis 2001-2002 pourtant, eh bien, on a pu observer quelques difficultés à gérer ces fins de match, notamment au Stade Bollaert, avec eh bien, quitte à se faire peur, des buts encaissés qui rendent les fins de match moins sereines alors que l'équipe hein, fait le taf au cours du match. Est-ce un problème de concentration selon vous? Est-ce un problème physique? Peut-être les joueurs sont un petit peu sur les rotules à la fin. Peut-être que c'est le défaut de ses qualités, hein, notamment je pense à l'action de Medina hein, qui amène le but de Gaëtan Laborde face à Rennes en fin de match. Qui veut se lancer sur le débat? Allez Antoine, je te lance sur le débat. Qu'est-ce que tu penses de ces difficultés à gérer ces fins de match pour le Racing?
Je pense que le problème de concentration a une genèse de problèmes physiques c'est un peu ce qu'a dit Aize en après-match. On a beaucoup donné sur la première heure, voire les 75 premières minutes. On l'a déjà développé au cours de l'émission sur le compte-rendu du match, où on a beaucoup donné. Et forcément, bah, tu es un peu moins lucide. Tu vas un peu moins bien te placer, tu vas moins bien faire les retours. Et je pense que l'un des meilleurs exemples qu'on peut citer pour le démontrer, c'est finalement la montée de Medina sur le but qu'on prend, où il te fait une montée à la 90e alors qu'elle n'est absolument pas nécessaire. Il monte un peu seul, hein, il perd le ballon et ben et voilà, il continue un peu sa course sur quelques mètres et du coup il ne fait pas le repli.
Il est plus à son poste.
Et voilà, donc est-ce que ce problème de concentration, voilà, il s'est un peu libéré, s'est dit voilà, il y a 2-0, c'est la 90e. Le match est plié, c'est un peu dérangeant. Après voilà, c'est aussi le défaut de nos qualités hein. On a un système, après Aize le répète hein, c'est pas forcément l'un des systèmes qui consomme le plus d'énergie, mais il consomme quand même, donc il se peut que sur certains moments ça fait que, après si on prend depuis le début de saison, c'est à chaque fois qu'on est inquiété, voilà, là tu prends un peu le but qu'on prend, bon, même s'il y a la montée de Medina, bon, Laborde est un peu chanceux de se retrouver avec le ballon dans les pieds. Le match contre Brest, c'est vraiment la faute à pas de chance avec la frappe doublement contrée plus un penalty. Donc c'est pas vraiment de la difficulté, limite on se met en difficulté nous-mêmes, et c'est un peu voilà, un peu des coups du sort qui font que pour le moment, en tout cas sur ce début de saison, parce qu'à Monaco c'est très bien géré, après bon, il y a le 4-1 qui facilite les choses. Ajaccio, bon, de toute façon c'est à toi à marquer, donc t'es pas vraiment inquiété par Ajaccio en fin de match. Moi je dirais pas que c'est vraiment un problème de concentration, là en tout cas sur le début de saison c'est plus d'effet du jeu, et limite si on est en difficulté ce serait plus physique que de la concentration.
Ouais. Peut-être l'usure psychologique en fin de match, Greg, comment gommer un petit peu ces fins de match où le Racing se donne pas finalement de l'air pour gérer ces fins de match?
Ouais, alors je suis assez d'accord avec Antoine pour le coup, parce que la semaine dernière par exemple c'est vrai que c'était plutôt bien géré, même si je ne parlerai pas de déconcentration à fin de match. Moi, c'est surtout ces moments un peu d'après-but, simplement, parce que la semaine dernière, par exemple, à Monaco, ça vient juste avant la mi-temps, Lens mène 2-0 et ils prennent un but sur un coup de pied arrêté. Là, pour le coup, même si Badiachile monte très haut, il y a un vrai problème de marquage. Et c'est ces petits détails-là qui, au fil du match, alors que Lens a toujours le match en main, doit l'aider à maîtriser encore plus. Cette équipe, elle montre beaucoup plus de maîtrise et de maturité de mois en mois, mais c'est encore un axe de savoir faire de la possession, un peu comme ce qu'a fait effectivement peut-être faire Medina. Et en même temps, encore une fois, on parle toujours de cet ADN d'équipe, et c'est aussi parce que cette équipe, elle est complètement folle et qu'elle attaque toujours, qu'elle est aussi forte. Et je pense que si elle commence à se poser trop de questions aussi, elle va perdre en naturel. Donc, c'est une alchimie, c'est un équilibre. Sur le match de Brest, c'est évidemment, alors que Brest n'avait absolument rien fait jusqu'à cette frappe déviée par Danso dans les buts de Brice Samba, ça a un peu tremblé fatalement sur les trois dernières minutes là contre Rennes. Mais je pense que c'est effectivement juste des faits de jeu. Et pas spécifiquement une baisse de régime. Voilà.
Ouais, c'est juste des faits de jeu à gommer finalement,
Et puis, et juste, juste
selon
finir là-dessus, c'est aussi normal qu'à un moment, Rennes menait 2-0, mette tout dans la bataille, et avec le talent qu'ils ont, qu'ils soient
toi. Oui,
dangereux, c'est pas non plus complètement fou, quoi.
on est d'accord, mais le débat se pose quand même parce que finalement, sans cet échappé sauvage de Medina, peut-être que Rennes ne marquait pas. Donc voilà, Thomas, que penses-tu toi de ce débat? Est-ce que tu penses que ça fait encore partie des petites choses à gommer ou finalement ça fait partie du jeu du Racing?
Bah, les deux, ouais,
Ouais.
ça je suis d'accord que c'est des choses à gommer, c'est encore gagner en expérience. Medina, c'est le même qui est sur, je pense qu'il lâche le marquage à Monaco, ou au moins qu'il tourne le dos et qu'il saute pas pour contrer de la tête.
Ouais.
Et c'est aussi lui qui se sent partir, mais bien, bien seul, alors qu'il y aurait peut-être eu Machado ou Aïdara qui partait sur sa gauche, peut-être que
Ouais.
on serait pas là en train d'en parler. Et après, c'est aussi, il part balle au pied, je suis le premier à crier.
Allez, allez, va mettre
ouais,
au
voilà.
fond.
Voilà, et après c'est toujours pareil, c'est un fait de jeu derrière. Grady, il tacle, il la met dehors. Il n'y a pas but, hein.
Ouais, on est d'accord, mais
Et parce que je trouve que c'est bien couvert, Medina part, mais derrière c'est couvert quand même.
ouais. On nous dit hein, dans le chat que le transfert de Patrick Berg a été officialisé. Hein. Je fais un petit aparté, mais le transfert a été officialisé. Patrick Berg signe à Bodø/Glimt et quitte le Racing Club de Lens 6 mois à peine après
40
son
millions,
arrivée.
hein, c'est ça? 40 millions?
40 millions, 4,5
L'offre est refusable.
Et Lens achète Paqueta, enfin, c'est vraiment une sacrée soirée.
120.
Allez, on termine avec toi sur le sujet, Guillaume. Que penses-tu de tout ce qui a été dit et ton avis sur le sujet?
Bah déjà, le sujet, c'est que on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de chronique. Effectivement, c'est plutôt conjoncturel sur ce début de saison. L'année dernière, moi, c'est vrai que j'ai un match qui m'a un peu rappelé ce Lens-Rennes, c'était le Lens Angers à Bollaert, où on est mené 1-0 à la mi-temps. Un mi-temps assez équilibré, mais on se prend un but. En deuxième mi-temps, on met 30 minutes de dingo, on mène 2-1. Et le dernier quart d'heure, par contre, on éteint la lumière et Angers est à deux doigts de l'emporter 3-2. Et effectivement, je pense que là, contre Rennes, c'est un peu comme ce même genre de match. En deuxième mi-temps, 30 minutes, un rythme quand même assez élevé. Je pense qu'inconsciemment, même à 2-0, bah, il y a un relâchement parce qu'on pense que le match est un peu géré, que Rennes voilà, est un peu enterré. Et moi, je suis un peu déçu des entrées aussi. Parce qu'en fait, on fait des entrées défensives, hein, deux pistons, Raidara, Cabot et puis aussi Berg. Et bah, je suis un peu déçu. Alors, je dis pas que c'est facile pour eux de rentrer dans ce genre de match. Je pense qu'on est en train de piquer un peu du nez. Mais j'attends un peu plus d'eux. Alors, les offensifs, c'est différent. Mais les rentrées défensives, j'attends un peu plus qu'ils nous sécurisent justement la fin de match. Et on n'a pas vraiment su le faire. C'est un peu ça qui me dit que de toute façon, il y a d'autres matchs où je pense que voilà, ça ira mieux que ça et que c'est pas quelque chose de chronique. Où il faudrait vraiment, je sais pas, imaginer d'autres choses, quoi. Donc
Ouais, bien sûr.
voilà, donc c'est plutôt comme ça que je vois les choses.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Franck fait un changement vraiment plutôt défensif, hein, où il sort Sotoka, où il fait rentrer Patrick Berg. Ça montrait aussi peut-être qu'il voulait garder ce résultat, ce clean sheet, qui est quand même important. Malgré tout, ça ne s'est pas fait. Dans le chat, François nous dit, François Morel, Hayes jouait beaucoup plus avec son banc, par contre, les saisons précédentes. Cette saison, les changements se font plus tard. On
Début de
perd
saison.
les gens devant qui ont techniquement le talent. Kakuta, qui pourrait garder un ballon, ne rentre pas. C'est notamment le propos de François pour peut-être expliquer ses fins de match un petit peu plus difficiles. C'est son avis, en tout cas, à voir pour la suite. Hein. Peut-être que ils vont réussir à gommer, ils vont apprendre encore. Ça se verra dès mercredi face à Lorient, finalement, en fonction du scénario du match. On va se projeter sur ce match face à Lorient, messieurs. Dès l'orienté, où un vent nouveau semble souffler hein, dans le Morbihan. Régis Lebris, qui est le nouveau coach, n'y est peut-être pas pour rien. Le vestiaire semble plus serein, l'équipe semble plus tournée vers le terrain. À 7 points en 3 matchs, hein, les Lorientais qui n'ont pas joué face à la Lyon. C'est un très bon départ pour les Merlus. Je vais vous poser une question, je vous planter un petit débat pour commencer cette projection. Lorient, une mentalité pardon, à la lensoise mise en œuvre. Est-ce que si je vous dis ça, vous trouvez que c'est assez correct? Je m'explique, Régis Lebris est arrivé, un nouvel entraîneur de Lorient cette saison, qui était entraîneur des jeunes avant. Un petit peu comme Franquès quand il est arrivé au Racing Club de Lens. Et on a l'impression, petit à petit, qu'il essaye de mettre en place peut-être un jeu un petit peu plus tranchant. tranchant. Il le dit lui-même dans l'équipe, je ne veux pas de possession stérile. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais je vois ce début de saison l'orienter un petit peu comme le début de saison, de la première saison du retour du Racing en première division, en Ligue 1, il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous dis et qu'est-ce que vous pensez globalement du début de saison l'orienter? Je vais donner la parole à Antoine pour commencer.
Est-ce qu'on peut vraiment le comparer à celui de Lens, sachant qu'ils étaient déjà, ils sont pas en tant que promus, c'est un peu compliqué. Après, au niveau des idées qui se font tous les deux du jeu, ouais. Je pense qu'on peut trouver des similitudes. J'ai trouvé une petite citation de Franquès qu'il a au moment de sa nomination à Lorient, ouais. Dans l'AFP, où il disait que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, pardon, à la fois sur le jeu et sur les hommes. C'est un peu aussi la philosophie de Francaise. Ouais. Donc moi j'aime bien un peu cette sorte de nouvelle école au niveau des entraîneurs où justement on donne de la chance à de nouveaux noms, à des personnes qui veulent arriver avec des idées plutôt que de recycler des entraîneurs qui ne proposent plus rien comme on a pu voir par le passé, les Courvenec, les Courbis, etc. Moi je suis même enthousiasmé à l'idée de voir de jeunes entraîneurs. Jeunes entraîneurs, attention, il a quand même de l'expérience avec la formation, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un profil similaire à Francaise. Après, est-ce que le jeu sera similaire? Je ne pense pas, parce que, comme il le dit, je ne veux pas de possession stérile. Et les deux victoires de Lorient, ils ont moins de 40% de possession. Ouais. Et notamment contre Clermont, le dernier match, ils jouent une mi-temps à 11 contre 10 et ils finissent avec 39,4% de possession. Ouais. Donc, c'est.
Et 22 tirs.
Oui, voilà. Donc. Oui. En termes de philosophie, c'est pas réellement la même chose, mais il y a quand même une volonté de produire du jeu, d'être efficace et de ne pas s'ennuyer. Si on a le ballon, on en fait quelque chose. Donc sur ça, je pense que ça peut être intéressant. Et même moi, en approche du match, je pensais qu'on allait avoir une équipe de Lorient un peu comme on les a affrontés les dernières fois, sauf à une exception.
Très bloc bas.
Très bloc bas qui nous attend, etc. Comme on peut avoir l'habitude de voir ces équipes. Sur le papier inférieur, mais finalement je pense que même s'ils vont nous laisser le ballon, je pense que ça peut être une opposition de style très intéressante et il faudra vraiment pas prendre ce match à la légère. Ce sera peut-être même plus compliqué à manœuvrer que Rennes, où il y avait un rapport de force assez, assez égalitaire au niveau des volontés. Là, il y aura vraiment une équipe qui va laisser le ballon, une autre qui va l'avoir, et il faudrait être encore plus vigilant, mais c'est vraiment un match qui, je pense, pour les observateurs neutres, peut être très intéressant.
Ouais. Alors, il y a encore des défauts dans cette équipe lorientaise. On l'a vu en deuxième mi-temps de son match face à Clermont. Mais malgré tout, voilà, ce parallèle entre Régis Lebris et Francaise, qui se sont connus à Rennes, qui se sont connus à Lorient, qui ont l'air d'avoir un petit peu la même mentalité dans la gestion des joueurs, dans l'idée de jeu qui se font en tout cas. Est-ce que ça peut amener à un match plus ouvert que ce que l'on l'imaginait, Guillaume, se lance Lorient?
Difficile à dire, je te répondrai mercredi à 23h.
Ouais, ce sera trop tard.
Mais Régis Lebris, en tout cas, par rapport à Francaise, ce qu'il met en avant, c'est les hommes, en fait. Et c'est vraiment développer l'intelligence collective et aider les hommes, donc les joueurs, mais à se développer et à croire dans ce qu'ils font. Et donc, il insiste beaucoup, il est sur la préparation mentale. Hein, il a des diplômes là-dedans, et Francaise aussi. Il amène aussi des nouvelles méthodes, on parle de yoga, etc. C'est des gens qui ont des staffs élargis, qui font confiance à des gens qui viennent aussi d'autres sports, d'autres disciplines, qui leur apportent justement, qui sont très ouverts sur ce que peuvent leur apporter d'autres choses, et qui sont avant tout des... C'est plus l'entraîneur tout puissant qui décide tout seul, toi tu joues pas, toi tu fais ci, toi tu fais ça. C'est des gens qui managent déjà un staff souvent très élargi, qui sont... chacun doit y trouver sa place. Je pense à Tudor à Marseille, par exemple. Il prend Camoranesi comme adjoint, au bout d'une semaine, le mec se barre. Pourquoi il se barre? Parce qu'il arrive et qu'il ne trouve pas sa place dans le staff. Nous, à Lens, on a un staff qui est élargi. On a de la rotation, mais naturelle, parce qu'à Loudiara, par exemple, il a des projets. À un moment, les ambitions personnelles font aussi que. Mais tu as Cahuza qui s'insère là-dedans, et c'est fluide, en fait. Et donc, je pense que Lebris, ça a l'air d'être aussi. C'est des amis de longue date, Lebris et puis S. Donc, je pense qu'ils sont aussi dans cette même école de pensée, dans ce nouveau management, comme l'évoque Antoine. Et au niveau du football, automatiquement, ça se ressent aussi par rapport à leurs idées. Ils ont aussi formé beaucoup de jeunes. Ça veut dire que c'est des gens. Le résultat à tout prix, c'est pas leur philosophie. On n'est pas dans des entraîneurs minimalistes qui ne sont là que pour compter les points. C'est des gens qui font de la formation. La formation, tu formes des joueurs. Tu veux le développer. Le résultat, je ne vais pas dire il est secondaire, mais ce n'est pas le résultat qui guide un formateur. le résultat est la conséquence. Et d'ailleurs, Francaise le dit toujours, le résultat, le classement, les victoires sont la conséquence de ce qu'on fait.
Mais malgré tout, quand tu prends une équipe, tu prends la tête d'une équipe de Ligue 1, le résultat reste important.
En formation, c'est comme ça. Et puis effectivement, après, quand tu arrives au niveau Ligue 1, bon, bah, faut trouver le compromis entre. Il y a quand même un moment les résultats. Parce qu'à un moment, si tu n'as pas de résultats, tu fais comme les autres. Hein, tu as beau avoir des bonnes idées, être ouvert et avoir un staff élargi et que tout le monde s'entende bien. Si tu n'as pas de résultats, bah, c'est comme partout, tu t'en vas. Quoi.
Donc, les résultats semblent être là quand même, hein, en ce début de championnat.
C'est un début de saison. Enfin, c'est difficile de se prononcer là-dessus. Moi, je n'ai pas vu encore de match de Lorient. Mais en tout cas, l'opposition de mercredi, c'est des gens qui se connaissent, donc ils savent se lire. Ouais. Et est-ce que ça va être un match complètement du coup où chacun va s'annihiler, enfin en tout cas Lorient va réussir vraiment à nous neutraliser, ça va être un match on va se neutraliser avec des systèmes peut-être qui vont s'opposer, qui vont vraiment être en complète opposition, ou est-ce que ils ont quand même fait chacun leur propre aussi vision, et peut-être on va voir la différence du coup mercredi soir.
La différence, c'est peut-être aussi que Régis Lebris vient seulement d'arriver, Greg, hein, alors que Francaise est là depuis déjà 3 ans. Francaise, il a eu le temps de mettre en place ses formations, ses schémas, ses enchaînements. Il connaît ses joueurs depuis un moment, ses joueurs se connaissent depuis un moment. Régis Lebris, il en est qu'aux prémices, même si dans l'état d'esprit, il veut peut-être essayer de mettre en place quelque chose de similaire. C'est encore le début. Le groupe sort d'une saison assez compliquée, hein, avec leur ancien coach. Malgré tout, il faut se méfier et notamment des deux de devant, Ouattara, il me semble, et Mofi.
Mofi, voilà. Oui, bien sûr.
Donc, ça va être un match assez intéressant.
Bah ouais, moi j'ai vu une large partie de leur match hier contre Clermont. Évidemment, ça souffre quand même, quoi qu'on en dise. Alors oui, on peut parler de collectif, on peut parler de tout ce qu'on veut. Terem Mofi, dans cet état-là, il peut faire mal à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes de Ligue 1. Mais pour ça, il faut qu'il ait un peu d'espace aussi pour prendre de la vitesse, etc. Lens était d'ailleurs avait vraiment sondé le dossier au moment où il avait fait Ignatius Ganago. Hein, Terem Mofi était aussi sur les tablettes lensoises à ce moment-là. Mais ouais, j'ai vu chez une équipe en tout cas qui a eu beaucoup de réussite sur le premier match. Alors, c'était un match compliqué à Rennes où ils gagnent sur un but contre son camp et voilà, ça tourne bien pour eux. Et depuis, bah, du coup, la confiance elle est là. Ils ont fait, je crois, 2-2 à Toulouse de souvenir. Et là, ils ont battu Clermont. Mais pour moi, c'est pas tout à fait encore la même chose. Il y a quand même encore des fébrilités que Lens pourra exploiter. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça ne veut pas dire que Lorient ne gagnera pas à Bollard mercredi, mais je pense que le Racing a de belles chances de mettre cette équipe en difficulté. Hier, elle n'a pas été souveraine malgré sa supériorité numérique, et donc il y a fatalement des choses à faire. En tout cas, juste pour revenir sur le cas Lebris et Francaise. Francaise, il n'avait pas eu besoin non plus de beaucoup de temps pour mettre en place quelque chose de cohérent dès qu'il était arrivé. Et son staff, il l'avait monté pour l'année d'après. Et en fait, on peut avoir des idées neuves et que ça marche tout de suite. Et c'est ce qui est en train de se passer à Lorient pour l'instant. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de supériorité là-dessus parce que Francaise a plus d'expérience aujourd'hui en Ligue 1 que Lebris. Ça peut vite marcher. Et Francaise, je me souviens notamment du premier match à Nice où il avait perdu en Ligue 1 et c'était Patrick Vieira sur le banc. Et après, il avait joué contre le PSG en deuxième match. Il avait quand même, je crois que c'était Tourelle à l'époque sur le banc. Et on parle de grands techniciens, et ça n'empêche pas des mecs qui viennent d'arriver s'ils ont envie de faire des gros coups. Donc attention mercredi. En tout cas, c'est intéressant sur le papier ce match, c'est clair.
Ouais. Faudrait être solide au milieu malgré tout, hein, et ça s'est vu sur le deuxième but que mettent les Lorientais face à Clermont, un bloc plutôt bas qui contre et tout de suite la fusée Mofi, hein, qui s'en va au milieu, qui transperce les deux joueurs qui restent de Clermont. Va falloir être solide de ce côté-là aussi, hein, Thomas.
Ouais, mais comme à chaque match.
Ouais, mais
ouais, non, mais c'est voilà, faut être concentré derrière et au milieu, et nous aussi. Nos attaquants être efficaces. Après, Lorient, je ne les ai pas encore vus jouer cette année, donc je ne peux pas t'en dire plus. Mais on s'est bien fait bouger l'année dernière aussi là-bas.
Oui, on se souvient. Donc, mais c'était pour le coup, le match à Lorient était vraiment un côté plutôt très défensif de Lorient. Et on s'était pris deux banderies où on avait très très mal défendu pour le coup. On se souvient. Ouais, mais il va pas falloir rejouer à ça non plus mercredi.
Non, mais on a gagné en maturité encore une fois. Donc, ouais. Et Hayes, je pense qu'il a un coup d'avance quand même sur, sur le Brice.
On espère, on le verra. Mais en
que
tout
l'existence soit plus globalement, a quand même plus de certitude.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Hein.
Voilà. Avec l'entraîneur, bien sûr, mais c'est surtout quand même le, voilà, la maturité d'effectif. Les Lorientais, ils sortent d'une saison quand même difficile. Alors justement, l'arrivée de Lebris, je pense que ça, ils étaient ça peut-être, ça a peut-être fait déclic sur certains joueurs qui étaient en manque de confiance et ça permet du coup de les libérer, de repartir sur le bon pied. Bon, après, ils n'ont quand même pas les certitudes que nous, on a. Donc,
Ouais, mais et puis c'est pas un promu en fait, Lorient, comme Lens l'a été. Hein. Lorient, ça fait 3 ans qu'ils sont en Ligue 1 comme le RC Lens. Ils sont montés en même temps. Ils avaient fini premier de Ligue 2 quand Lens est monté et avait terminé deuxième. Mm. C'est un club costaud qui doit être regardé comme tel et pas comme une future surprise. C'est un club qui aujourd'hui est en Ligue 1, installé et qui est dangereux évidemment. Mais c'est loin d'être un promu. Ça fait déjà c'est sa 3e saison d'affilée en Ligue 1.
Ouais. Mais sachant que l'Orienté sera certainement absent vu son instance de départ vers Sassuolo.
Exactement, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Racing, hein. Armand L'Orienté qui serait sur le départ du côté de Sassuolo en Italie, un des bons joueurs, hein, même s'il est parfois inconstant, un des bons joueurs, notamment sur coup de pied arrêté, des Merlus. Tu parlais d'un joueur des Merlus, on va rapidement, hein, avant de terminer l'émission, parler quand même turnover du côté du Racing, parce que on a l'impression quand même que ces 3 matchs en une semaine vont peut-être nous amener à avoir une compo différente de Francaise pour la 5e journée du championnat, alors qu'il a aligné 4 fois les mêmes équipes. Antoine, tu vois, toi, quelques mouvements face à Lorient ?
Oui, il avait annoncé en conférence de presse, je crois, que sur les 3 prochains matchs, et notamment les 2e et 3e, donc à savoir Lorient et Reims, il y aura du turnover. Et de toute façon, ce sera nécessaire, et ce sera nécessaire tout au long de la saison, le temps qu'on jouera 2 à 3 matchs par semaine. Mm. Donc, ça, c'est, du turnover, c'est sûr qu'il y en aura. Après, à quel poste, je pense que en défense, Machado, moi je le vois bien continuer. Mm. C'est peut-être au poste de latéral droit, voir Cabot qui fait des entrées plutôt intéressantes. Le voir démarrer contre son ancien club, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Toujours cette petite histoire des joueurs qui marquent contre leur ancien club. Surtout que le jeu passe souvent à gauche en phase offensive. Frankowski est un peu plus présent sur le plan défensif, pas trop offensivement, je trouve, surtout sur le dernier match. Donc moi, j'aimerais bien voir déjà, je voulais déjà voir Cabot à Monaco, j'aimerais bien le voir démarrer demain. Après, ils sont tellement, le 11 est tellement cohérent que t'as pas envie en fait de le faire tourner, mais sur le plan physiologique, on l'a rappelé tout à l'heure, que sur certaines phases, voilà, on peut avoir des soucis, des petits pépins physiques sur des petits cours de match. Que c'est malgré tout nécessaire. Mais par contre, c'est là aussi où on franchit un palier par rapport à la saison dernière. Quand tu vois ce que tu as sur le banc, ça reste cohérent pour démarrer un match de Ligue 1. Donc, après avoir au milieu, est-ce que pour Eba, c'est pas trop court pour démarrer un match titulaire de Ligue 1. Après, en attaque, tu as un peu plus de marge de manœuvre. Tu as Saïd. Ganago, j'ai un peu de réserve, ses entrées.
Ou alors, Greg, pourquoi pas remettre la même équipe mais faire des changements plus tôt.
Peut-être. Ouais, j'ai quand même le sentiment sur ce qu'a dit Francaise la semaine dernière en conférence de presse. Il l'a redit un peu après le match que ça va déjà bouger. Il y a un match aussi dimanche à Reims, donc je pense que ça va déjà bouger dans le 11 mercredi. Voilà, moi, tu vois, sur Frankowski par exemple, ce que disait Antoine, je suis assez d'accord. Moi, je trouve. En tout cas, finalement, je le préfère plus à gauche, moi, Premyslav Frankowski, c'est assez dingue, mais c'est le cas, parce que ça lui permet de rentrer sur son pied droit, et donc aussi de dédoubler parfois avec Seko Fofana, de créer des brèches, de pouvoir centrer, et ça crée un déséquilibre que je trouve à droite, il n'arrive pas à donner, donc moi, je partirais même sur... Si j'avais des diplômes d'entraîneur de Ligue 1 et que j'étais sur le banc du Racing Club de Lens, ça fait beaucoup. Sur Frankowski à gauche, Cabot à droite, parce qu'il faut bien à un moment donné le voir aussi en position de titulaire. Pour le reste, ça risque de... je ne vois pas comment on peut, par exemple, bouger les trois de derrière, même s'il faut faire souffler. Et malheureusement pour Christopher Wu, qui est un super joueur et qui a montré l'année dernière qu'on pouvait compter sur lui, comment aujourd'hui débouler un des trois derrière, ça semble compliqué, quoi, parce que ils sont tous les trois à un sacré niveau. Devant, Openda a marqué des points, mais est-ce qu'il n'a pas besoin non plus aussi un moment de souffler dans une séance? Voilà, il fait beaucoup de courses. Là, il est sorti autour de la 70-15e minute, peut-être. Et voilà. Franchement, c'est compliqué. Et moi, mon vrai questionnement, c'est sur Gaël Kakuta, parce que est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va pas rester, ça, on le verra. Mais sa
Est-ce qu'il va
qualité
jouer
technique.
des premières minutes avant un éventuel départ déjà?
Bah, disons, j'ai surtout l'impression que ouais, Wesley Saïd est quelqu'un de dans un autre qui est quand même dans un autre registre.
Registre.
Dans un autre registre, mais qui derrière David Pereira da Costa pour mener le jeu en soi dans des semaines comme celle-là, où je pense
Bah, on
qu'il
parlait de
faudrait.
Claude Maurice, peut-être lui, hein, on sait
Bah
pas.
voilà, moi je pense qu'il faut quelqu'un, un animateur en tout cas. Je sais pas si ça va se faire, je sais pas.
On verra,
Voilà,
ouais, on
mais je
verra.
pense qu'il faut un deuxième animateur parce que ça permettrait de faire aussi tourner un peu plus dans un poste qui est important.
Ouais. La réponse, les réponses peut-être mercredi, c'est sûr, hein, par rapport au match. Et puis pour le mercato, ce sera jeudi, hein, puisqu'il termine le premier à 23h, ce mercato. Avant de conclure l'émission qu'on a bien prolongée aujourd'hui, je vais vous demander de pronostiquer ce match rapidement, que vous me donniez le résultat. Thomas, c'est avec toi qu'on commence.
Défaite 1-2.
victoire du Racing Club victoire du FC Lorient, donc défaite du Racing Club de Lens 2-1. Greg.
Un but partout.
Guillaume.
Bah, j'allais dire aussi un but partout. Difficile de gagner deux matchs de suite, 6 points, c'est très très rare à domicile. Donc,
Ouais.
C'est plus arrivé depuis 12 ans, enfin depuis 11 ans, RC Lens. C'était en janvier 2011 sous Laszlo
Ah oui.
Bononi.
Avec Angers, non,
Incroyable.
avec Saint-Étienne.
Il aura réussi ça, Laszlo.
Ouais. Ouais, ça Oui, Saint-Étienne, fin janvier 2011. Ouais,
On termine avec toi, Antoine.
Il a donné son pronostic, Guillaume?
Un partout.
Un partout aussi. J'ai vu une stat, ça fait 4 matchs de suite qu'on met au moins 2 buts, je crois, à domicile. Donc 2-0.
Eh bien, victoire du Racing Club de Lens. Et si on peut détrôner Laszlo Bonini, ce ne sera pas plus mal, peut-être, de ce côté-là également.
Un nouveau record que fera tomber Franck Hez et ça m'ira très
Oui,
bien.
parce que c'est vrai qu'il en fait tomber pas mal, hein, Franck Hez, depuis qu'il est revenu, depuis qu'il est arrivé, hein, à la tête du Racing Club de Lens. Merci beaucoup, messieurs, pour ces débriefs, pour ces projections, pour ces quiz. C'est toujours un plaisir eh bien, de passer cette émission avec vous. Merci, Guillaume, Greg, Thomas, Antoine. Merci à tous ceux qui nous regardent, évidemment. Hein, vous êtes fidèles à Culture Sangueur et ça nous fait plaisir. Merci à Alexis, à la technique. Et puis, n'hésitez pas, hein, si vous aimez ce qu'on fait, les contenus de Culture Sangueur, n'hésitez pas à liker nos vidéos. Ou à commenter nos vidéos, ça fait toujours plaisir, ça nous met en avant et ça nous donne encore plus envie de vous proposer différents contenus. Voilà, n'hésitez pas, faites-le. Merci beaucoup d'être fidèle à la culture senior et on se retrouve très vite. Ciao, ciao, bonne soirée.
Ciao.
Salut.
Bonne soirée.